Hop là. C'est parti. Erev Tov les Koulam, Erev Tov, et on revient dans notre étude de Perek Chelek, les Agadot du Perek Chelek, Maseret Sanhedrin. Et on a terminé tout le codex d'études sur Triat HaMetim. Donc on a étudié en long, en large, en travers, quelle était la vision du judaïsme par rapport à Triat HaMetim et par rapport à la dimension du Olam Haba qui était apportée dans la Mishnah. Maintenant, eh bien, on va s'intéresser à une autre question, une autre dimension. Donc on sort de Triat HaMetim. Vous allez voir, je dis on sort de Triat HaMetim, bien qu'on va tout de suite en reparler, mais ce ne sera pas pour parler de Triat HaMetim, mais ce sera pour ramener autre chose. Alors, on va changer donc de sujet. Et on se rappelle que la Mishnah, elle a commencé en disant « Kol Yisrael Eshtem Chelek Leolam Haba ». C'est ce qui nous avait amené à Triat HaMetim. Mais l'argument qui avait été donné pour dire « D'où tu sors que Kol Yisrael Eshtem Chelek Leolam Haba ?» On nous avait dit « Sheneemar Ve'amer Kulam Tzadikim Leolam Yirshu Aretz ». Ah, Yirshu Aretz. Et on avait donc expliqué cette dimension-là. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il y a un lien entre le Olam Haba, Triat HaMetim, et la terre d'Israël. Et c'est pourquoi nous rentrons maintenant dans notre deuxième grande session, qui est à qui appartient la terre d'Israël? À qui appartient la terre d'Israël? Alors allons-y. Et la Gemara, donc on est toujours dans la Gemara dans le traité de Sanhedrin, à la page 91, Tzadik Aleph, Amoud Aleph. Et voilà ce que la Gemara nous dit. Amar lei aumina le gevia ben pesisa. Vei lechon chayve de amriton meite chayin. De chayin meite, de meite chayin. En français, ça donne quoi? Amar lo otomin le gevia ben pesisa. Oy lachem reshaim, shatem omrim shametim yichyu. אלו שחיים מתים, אותם שכבר מתו, הייתכן שיחיו? Et cette fois en hébreu, le min, un certain bonhomme qui s'appelle min, donc on a déjà expliqué les minim, ça fait référence aux chrétiens, a été voir Gevia ben Pesissa. Alors on ne sait pas encore qui c'est ce monsieur-là, Gevia ben Pesissa, mais en tout cas, une chose est sûre, ce min a été le voir et lui a dit, vous êtes des réchaïm. Vous dites que les morts vont revivre? Comment vous pouvez dire un truc comme ça? Allez, ceux qui vivent meurent, ça on le voit. Donc si même ceux qui vivent meurent, comment tu peux dire que ceux qui sont déjà morts vont revenir? Mazé, qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'après ce mine, il n'y a pas d'espoir pour le monde. Tout va vers la destruction. Réponse de Gvia ben Pesissa, Amarle, Veilechon Chaeve de Ameriton Mite, Meiteslichal Lochain, de Lohave Chaye, de Achaye, Lokol Sheken. Comment ça? Amarlo, il a répondu Gvia ben Pesissa, Oelachem Rechaim, c'est toi le Racha. Shatem Omrim Shametim Lochaim, vous dites que les morts ils vont pas vivre? Aimichelo Ayu Chaim. Il dit, les gens qui ne sont pas encore vivants et qui naissent, ils n'étaient pas vivants et maintenant ils sont vivants. Donc, si Dieu il arrive à donner la vie à des gens qui n'étaient pas vivants, Bichlal, jamais, alors ceux qui ont déjà vécu, a fortiori que Dieu il peut les ramener à la vie. On ne comprend pas vraiment le débat parce qu'on ne voit pas l'intérêt du débat. Parce que l'intérêt du débat se trouve dans la suite. Amarle. Chayve karatli, eka mine be itena bach u peshitna leakmutecha minach. Allez, il est violent notre mine, il lui dit, Racha, tu m'as appelé, tu m'as dit que moi j'étais Racha. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé en disant, Atem Rechaim. Mais bon, il lui dit, tu m'as appelé Racha, écoute-moi bien mon ami, écoute-moi bien. Si jamais je te vois, je te tape tellement fort que je vais réussir à enlever ta bosse de toi. Bon, alors là, il va falloir qu'on explique un petit peu parce qu'en plus, la réponse de Gvia Ben Pesissa, elle nous dit Ah ben alors là, Amarle, imata osekan, rofe uman tikare vesrar betitol. Ah ben alors là, si tu y arrives, tu seras le meilleur docteur de l'univers et tu seras très riche. De quoi on est en train de parler? Le débat entre Gvia ben Pessissa et le mine n'est pas important. C'est pour ça que les réponses qui sont données ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est de présenter le bonhomme Gvia ben Pessissa. Pendant toute la suite de notre étude, où il va y avoir plusieurs idéologies qui vont se dresser contre Israël pour prétendre l'hégémonie sur la terre d'Israël, celui qui va être le représentant du peuple juif, c'est Gvia ben Pessissa. Maintenant, cet homme-là, Gvia, eh bien, il était Talmid Chacham, bien sûr, mais il ne pouvait pas siéger au Sanhédrin. Pourquoi il ne pouvait pas siéger au Sanhédrin? Eh bien, parce qu'il était Baal Moum. Il était bossu. Eh oui, il était bossu. Malasot. Gvia ben Pessissa, le terme Gvia, ça veut dire Giben. C'est-à-dire qu'il était bossu. Et en tant que bossu, ben, il ne pouvait pas s'installer, enfin prendre place au Sanhédrin. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et donc, le mec lui dit, si jamais tu m'appelles Racha, je vais t'enlever ta bosse. Et l'autre, il lui dit, bah, si tu fais ça, il colle la commode. Mais qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de nous expliquer? De la même façon que Gvia ben Pessissa est Giben, est bossu, et donc il ne peut pas s'installer au Sanhédrin, il est le représentant du peuple juif, qui, quelque part, est bossu lui aussi, et qui n'arrive pas à s'exprimer. Quand on te dit qu'il n'est pas, pas dans le Sanhédrin, c'est qu'il n'est pas légitime en vrai pour représenter le peuple juif. On aurait dû emmener quelqu'un d'une instance officielle, mais on ne va pas le faire. On ne va pas le faire, on va l'emmener lui. Il représente ce Ham Israël qui lui aussi a du mal à se tenir devant les nations. Pourquoi il a du mal à se tenir devant les nations? La Mamakara. Eh bien, tout simplement parce qu'il est Giben. Il est bossu. Pas seulement Gevia, mais Am Israël, il est bossu. Am Israël, il est Baal Moum. Matai. Et Bagalout. Bagalout. Il est bossu, pourquoi? Eh bien, parce qu'il a du mal à se tenir droit. La Galout nous a fait nous recroqueviller sur nous-mêmes et fait que nous n'avons plus une légitimité aux yeux des nations. Nous ne sommes plus une nation. Nous n'avons plus de drapeau, d'indépendance, et ainsi de suite. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait tenir un langage d'égal à égal avec les nations? C'est un vrai problème. C'est ce que dit Rabbi Yehuda Halevi Sefer HaKuzari dans le quatrième paragraphe, au tout début du livre. Il dit « Ubadavar asher la Yehudim » quand on nous demande « Pourquoi est-ce que tu ne vas pas voir les Juifs ?» Là, le Melech Kuzar, il répond, il dit « Ubadavar asher la Yehudim »« Maspik ma shenir'a le'ayin shekol ma'utam netunim beshefel ma'uti misem ve'em snuim alakol » Ça nous dit Rabbi Yehuda Halevi, bah, évidemment que les Juifs, ils ont tort. Regarde, tout le monde les persécute, ils sont bafoués, ils sont tournés en dérision. C'est donc sûr que ce n'est pas eux qui ont raison. En d'autres termes, quand Am Israël est bagalout, il a du mal à se tenir droit, pas pour prôner sa vérité devant les nations. C'est ce que nous dira le roi Shlomo Ameler, « Chochmat amisken bezouya udvara veinam nishmaim ». Alors, ça, c'est pour nous représenter qui est Gvia ben Pessissa. Et il va avoir à répondre à plusieurs attaques qui viennent de plusieurs identités de ce monde. La question tourne à chaque fois autour de qui est le Baal HaBayit Be'eretz Israël. Tanou Rabbanan. Be'24 Benissan itnetilu dimosanae mi-Yehuda u-Mirushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Le 24 Nissan, le 24 Nissan. D'abord, il faut savoir que c'est une fête qui est mentionnée dans Megillat Ta'anit. Vous savez, le livre Megillat Ta'anit, c'était un livre dans lequel étaient inscrites toutes les fêtes qui ont été rajoutées à l'époque du Second Temple. Il y a une trentaine comme ça de journées, où on a parlé de faire des jeûnes pendant ces journées-là et tout ça. Ce sont des jours de fête qui correspondent à des grandes victoires de l'époque du Beit Sheni. La Megillat Ta'anit, elle a elle est extrêmement importante aux yeux de Chazal, si bien que dans le Talmud, lorsqu'on va citer Megillat Ta'anit, eh bien, la Gemara dira « dirtiv ». Dirtiv, comme quand on cite un verset de la Torah. Donc, Megillat Ta'anit, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, Batla Megillat Ta'anit, nous dit la Gemara dans le traité de Rosh Hashanah, que Batla Megillat Ta'anit, toutes les fêtes ont été annulées, Chutz Michanouka et Purim. Chacun pour une raison qui est la sienne. Mais ici, on nous parle donc d'une de ces journées de fête qui était à l'époque, le 24 Nissan. Donc, juste après Pessah, le 24 Nissan, eh bien, on nous dit, voilà, Batlou Atto'anim Bamishpat Mi'Yehuda Verushalayim. C'est quoi? Il semblerait qu'il y avait des gens qui ont tenté une instance, un recours en justice pour nous détrôner de la terre d'Israël. Allons-y. Regardons de quoi il s'agit. Et donc le 24 Nissan, c'est la fin des instances à l'ONU de l'époque. C'est pour ça qu'on a fait une journée de fête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardons dans le texte. Kshebaou bene Afrikaï ladun im Israël, l'ifne Alexander Mogdon. Donc on nous dit qu'il y a eu un premier donc jugement auprès d'Alexandre le Grand. Alors, ça ne marche pas, hein. Je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas au niveau timing. Gevia ben Pessissa, il n'est pas à l'époque d'Alexandre. Mais Zélo Méchané. Zélo Méchané, encore une fois, comme on avait dit avec Cléopâtre, on essaie ici d'amener une réalité générale. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'Alexandre le Grand, mais d'un dirigeant romain, un empereur romain qui s'appelait Alexandre, qui existait lui. Donc peut-être que c'est de ça qu'on parle. Mais en tout cas, ici, c'est ce qu'on veut nous dire. Qu'Alexander Mogdon, qui était le roi du monde, finalement, il a conquis pratiquement tout le monde connu, eh bien, il est en lui-même les instances internationales. Et donc, on nous dit que Bene Afrikaï, les Africains, sont venus le voir. Mais attention, c'est qui ces Africains? Mazé Bene Afrikaï, ce sont les Kenaanim. Comment ça, les Kenaanim? Afriki, c'est Tunis. Afriki, c'est pas tout le continent africain, c'est la Tunisie. Or, en Tunisie, eh bien, se sont enfuis le Girgashi, qui était une des peuplades cananéennes. Lorsque Yahushua est arrivé, le Girgashi s'est enfui. Et Rashi nous dit que Dieu leur a donné Afriki, Tunis. Et là-bas, ils ont créé l'empire de Carthage. En d'autres termes, c'est qui ces Africains? C'est les Cananéens. Donc les Cananéens sont les premiers à venir porter plainte que Am Israël les a détrônés. Amroulo. Eretz Kenan, Shelanoui. C'est à nous la terre d'Israël. Dirtiv, Eretz Kenan, Likvulotea. Vekenan, Avuhon, Dehan Nehu, Inchehave. Eh, il y a marqué dans la Torah que la terre s'appelle Eretz Kenan selon ses frontières. Or, Kenan, c'était notre ancêtre à nous, disent les Cananéens. Donc, c'est la preuve que la terre s'appelle la terre de Canaan, c'est la terre des Cananéens, et que donc vous, les Bnei Israël, vous l'avez volée. Bon, c'est, on entend, hein, c'est quelque chose de connu, de classique. Vous avez volé la terre d'Israël. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus ce débat avec les Cananéens pour la simple raison qu'ils n'existent plus, les Cananéens. Mais comment, à l'époque de Gvia ben Pessissa, il a répondu? Amar leum Gvia ben Pessissa la Chachamim. Gvia ben Pessissa est allé voir le Chachamim, le Sanhedrin, et Amar, tnou li reshut ve'elech adun imahem. L'Ifna Alexander Mogdon. Laissez-moi représenter le peuple juif devant Alexandre. Im yenatsrouni, si les goyim ils vont me battre, amrou idiot shen banu nitzartem. Ve'im an yenatsachetam, amrou lahem torat moshe nitzartem. C'est-à-dire qu'il dit, si jamais j'y vais moi, alors vous pourrez dire, et que je perds le débat, vous direz à Alexandre, ça va, il ne nous représente pas, ce n'est que Gevia ben Pessissa. Donc ça n'engage à rien, mais si je gagne, vous pourrez dire non. Tu vois, même quelqu'un qui n'est pas un représentant du Sanhedrin, il savait déjà vous répondre, a fortiori nous. Natnou lo reshut. Ok, vas-y. Alar vedan imahem. Amar lahem. Meichan atem mevim reaya. Dans votre argumentaire, messieurs les Cananéens, d'où vous apportez votre preuve? Amrou lo mina Torah. C'est marqué dans votre Torah que vous avez tort. Et vous remarquerez que c'est quelque chose qui est très, 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 très souvent utilisé. Que les goyim, quand ils veulent nous faire tort, du tort, eh bien, ils utilisent nos propres armes contre nous. Très souvent, on va te dire, non, mais il y a marqué dans la Torah, ou alors, non, mais regardez, vous, les Israéliens, vous avez signé un papier, non, mais regardez ce que vous, vous faites. C'est fantastique. C'est-à-dire que les Cananéens étaient le peuple le plus dépravé de l'époque, étaient le peuple le plus amoral de l'histoire, immoral même, et ils viennent nous donner des leçons. Genre, c'est marqué dans votre Torah que vous nous avez volé la terre d'Israël. Amar lahem. Gavia ben Pessissa a répondu. Afani lo avi lachem re'aya ela mina Torah. Puisque vous, vous êtes basé sur la Torah pour argumenter, moi aussi, je vais me baser sur la Torah. Sheneema, vayomer arur kenan, eved avaydim, yelechav, eved shikana nechassim, eved lemi, venechassim lemi. Vous dites que vous emmenez vos argumentaires de la Torah, mais dans la Torah, il y a marqué que arur kenan, que Knaan doit devenir maudit et esclave de ses frères. Or, un esclave qui aurait acquis quelque chose, c'est pas à lui, c'est à son maître. Donc, si Knaan sont des esclaves et qu'ils ont pris possession de la terre d'Israël, en fait, ça revient à leur maître. C'est qui leur maître? Echav, c'est qui les frères de Knaan? De Ham, c'est Shem et Yafet. Et dans Shem, il y a les Bnei Israël. Donc, tu vois bien que de la Torah, c'est Shayach Lanou. Mazé Sipour Azé. Comment ça? C'est ça qu'il aura trouvé. Atem Arurim. Il faut comprendre une chose. Lorsque la réponse de Gvia, c'est ça, c'est de dire, mais les amis, vous n'avez pas compris. Vous portez en vous la faute de votre père. Vous vous revendiquez les enfants de Knaan. Eh bien, vous portez sur vous toute la dépravation des Knaanim. À ce moment-là, Amar Lahem Alexander Malka, le roi, donc Alexandre, leur a dit, Erzir ou lo tshuva? Répondez-lui. Amrou lo, tnou la nuzman shloshet yamim. Mazé Erzir ou lo tshuva? Oui, répondez, mais ce n'est pas seulement ça. Faites teshuva. Faites teshuva de cet attachement irrationnel à votre ancêtre. Amrou lo, tnou la nuzman shloshet yamim. Donnez-nous 3 jours. Pourquoi 3 jours? Pour raccourcir la distance entre les nations et le peuple juif. À chaque fois qu'il y a un écart entre Am Israël et les Goïms, c'est 3 jours. D'ailleurs, lorsqu'on fait une Brit Milah, d'après la Halakha, on n'a pas le droit de bouger pendant 3 jours. Le monde continue à avancer, nous on est statique pendant 3 jours. En d'autres termes, eh bien quelque part, on a un écart, un décalage avec les nations qui dure 3 jours. Donc ils ont dit, donnez-nous 3 jours, on veut se remettre à niveau. Mais ça aide. En baya, Nathan Lemsman, Batku Velo Matsu Tshuva. Ils n'ont pas réussi à faire Tshuva. Ils n'ont pas réussi à se débarrasser de leurs démons. Azma, Miyad Barhu, Venichu Sdotehem Kshem Zeruot, Vekarmehem Kshem Netuot, Veota Shana Shvi Taita. Donc ils n'ont pas réussi à trouver de réponse, ils n'ont pas fait Tshuva. Et donc, ils se sont enfuis, non seulement de devant Alexandre, mais de leur parcelle de terre en Israël. Et on nous dit, ils se sont enfuis, leurs champs étaient déjà prêts à être récoltés, et leurs vignes prêts à donner les meilleurs raisins. On dit, et cette année, en plus, du débat, c'était la Shemitah. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire, c'était la Shemitah? La Shemitah est là pour montrer notre lien avec la terre d'Israël. C'était la Shemitah, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement, ce débat-là est là pour montrer le lien indéfectible entre le peuple juif et la terre d'Israël. Donc, on a réglé le problème des Knaanim. Aval, ce n'est pas les seuls à venir. Si déjà Alexandre il a ouvert le bureau des plaintes contre les juifs, ben, on a d'autres qui arrivent. Shuv pa'am achat, ba'u b'nei Mitzrayim, ladounim Israël, lifne Alexander Mogdon. Maintenant, ce sont les Égyptiens qui arrivent. Amroulo, arrêt. הוא אומר, והשם נתן אתכן העם בעיני מצרים, וישאלו, והשילום, סליחה, תנו לנו כסף וזהב שנטלתם מאיתנו. Les Égyptiens viennent dire, alors eux, ils disent pas, vous avez volé la terre d'Israël. Eux, ils disent, Bichlal, vous nous avez volé nous, le monde. Je vous rappelle que l'Égypte, à l'époque, c'est le monde entier. Et ils disent, regarde, il y a marqué dans la Torah que vous avez pris l'argent aux Égyptiens. Donc, rendez-nous. Rendez-nous ce que vous nous avez pris. Amar Gevia ben Pesissa, la Chachamim, nous les réchoudes, ve elech adonimahem, lefna Alexander, im natsroni, amroulahem idiot shebanu nitsartem, ve imani natsayachotam, amroulahem torat Moshe Rabbeinu nitsartem. De nouveau, natnou lo réchoud, ועלך ודנים מהם, אמר להם, מאיכן אתם מביאים ראיה? והוא עושי, דו ווז אמנה ווטר פרוב. אמרו לו מן התורה. יופי, תחי ביין. דו ווז אקספטה עושי כשריפון תורה. אמר להם, אף אני לא אביא לכם ראיה אלא מן התורה שנאמר, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה וארבע מאות שנה. וארבע מאות שנה. תנו לנו שכר עבודה של 60 ריבו ששיעבתם במצרים 30 שנה וארבע מאות שנה. Donc qu'est-ce qu'il dit, Mivia ben Bezaidi? Vous m'avez amené un verset comme quoi on vous a volé de l'argent. Je vous amène un autre verset qui dit qu'on a été esclave chez vous pendant 430 ans. Eh bien, je vous invite à rembourser 430 années d'esclavage sur 600 000 personnes. Je pense qu'on vous a pris beaucoup moins que ce que vous nous devez. Qu'est-ce qui se passe ici? Les Goïm nous accusent de n'avoir pas été, d'avoir été des voleurs, mais surtout de n'avoir pas été capable de bien expliquer au monde pourquoi ils font ce qu'ils font. Pourquoi on a pris Kesef Vezahav Bemitzrayim? On a pris Kesef Vezahav Bemitzrayim pour que tout ne soit pas détruit de l'Égypte, pour qu'il y ait un vestige de l'Égypte qu'on puisse faire partager et qu'on puisse élever dans la Kedusha. En fait, on a pris ce qu'on a pris à l'Égypte pour que l'Égypte ne meure pas. On a gardé les dernières bribes de l'Égypte vivantes. Nous sommes, nous les Am Israël, les derniers Égyptiens antiques. On a nos tfilines qui sont les tfilines pharaoniques, qui avait son serpent là et son serpent là sur le bras. Et on les a un tout petit peu changés pour les juivisés, mais on a appris l'idée de mettre quelque chose sur la tête, sur le bras de Pharaon, de l'Égypte. L'argent, l'or qu'on a pris de l'Égypte va servir à quoi? Ben soit les Ra'a à faire le Vodor, soit les Tova à faire le Mishkan. En d'autres termes, le but, nous dit Revia Ben Pessissa, le but de notre passage en Égypte, c'était de prendre cet argent-là. Pourquoi? Pour qu'elle serve à bénir l'humanité tout entière. Et on peut voir qu'à la fin de la sortie d'Égypte, les Égyptiens ont compris. Pas seulement le peuple qui a envie de renvoyer le peuple juif parce qu'ils en ont marre des plaies, mais parce que Pharaon termine en disant « Uberachtem gam oti ». Bénissez-moi, Moshe et Aaron, car je vois maintenant en vous une source de bénédiction. Tov, il a fait merde. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un Israël sort d'exil pour retourner sur sa terre, non seulement il est légitime sur sa terre, c'est ce qu'on a vu avec les Knaanim, mais en plus, il est encore plus légitime parce qu'il a ramené avec lui les trésors de l'exil. Ce qu'on va appeler dans le langage de la Kabbalah, l'ikut nitzotzot akedusha shayu betoch haklipa. Alors en Égypte, ça s'est traduit par l'or qu'on a pris de l'Égypte. Mais dans chaque galoute, quand on est parti, on a pris des choses qui étaient des grands éléments de la culture dans laquelle on était et qu'on veut amener dans la Kedusha. Quand on est sorti de Babylone, on a pris le nom des mois, on a pris le nom des Malachim. Et quand on est sorti d'Europe, par exemple, on a pris la démocratie, on a pris la République aussi, on pourrait dire. On a pris toutes les valeurs de la société occidentale et on a fait un tri, mais on en a gardé énormément. רבותיי, זה דוסלה קומפר. אמר להם אלכסנדר מוקדון, החזירו לו תשובה, והריפון דלוי. אמרו לו, תנו לנו זמן, שלושת ימים, הרי. נתן להם זמן, בדקו ולא מצאו תשובה. אהו סינו פריס יפר תשובה. מיד הניחו שדותיהם כשהם זרועות וכרמיהם שהן נטועות, וברחו ואותה שנה שביעית הייתה. פרי, רבלות. קיפה מתנו, venir tenter, eh bien, j'allais dire, de dire « c'est pas à vous, c'est à nous ». Après les Cananéens qui étaient les autochtones, après les Égyptiens qui étaient le monde de l'époque, « chouv פעם אחת באו בני ישמעאל ובני כתורה לדון עם ישראל לפני אלכסנדר מוקדון. Les ישמעאלים, les musulmans, les arabes, et les enfants de Ketura sont venus devant Alexandre pour plaider leur cause. Alors vous aurez bien compris que les Bnei Ishmael et les Bnei Ketura, ce sont les enfants d'Abraham. Et ils se revendiquent comme tels pour dire qu'ils ne sont pas moins légitimes que nous. Et regardez, c'est ce qu'ils disent. Amroulo. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Amroulo. Eretz Kenan Shelanu Veshelachem. דרתיב, ואלה תולדות ישמעאל בן אברהם. וכתיב, אלה תולדות יצחק בן אברהם. On sait qu'il y a יצחק, mais il y a aussi ישמעאל. Donc, ארץ ישראל vous appartient autant que nous appartient à nous. אמר להם גביה בן פסיסה לחכמים. שוב. כקווה. תנו לי רשות. Laissez-moi moi répondre. ואלר ואדוני מהם, לפני אלכסנדר מוקדון, אם נצחוני אמרו, אידיוט שבאנו ניצחתם, ואם אני מנצח, אמרו, תורת משה ניצחתם. אמרו לו, נתנו לו רשות, הלך ודן עמהם, אמר להם, מאיכן אתם מביאים ראיה? פרי, דו וסורתי ואותך ארגימותר. אמרו לו, מן התורה. תכה בין, alors, si vous amenez de la Torah, אמר להם, אף אני לא אביא ראיה, אלא מן התורה, שנאמר, ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות, אף שנתן אגתין לבניו בחייו ושיגר לה מעל זה, כלום יש לזה על זה כלום. Quelqu'un qui a écrit son testament, eh bien tu peux pas revenir dessus. Maintenant de quoi on est en train de parler? Il y a une différence fondamentale entre la ta'ana donnée par les Ishmaélim et celle donnée par les Bnei Ketura. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble, Ribono Shel Olam. Voilà, on vient de terminer, on est en train de terminer la semaine du Chodesh Irgun. Ma fille vient de rentrer de Erev Tzviat Kirot. Et je me demande s'il y avait un mur à colorier où le mur, c'était ma fille. C'est une grande question.
Il faut que tu nous la montres, là.
Ben, c'est ça. Je vous en supplie. Et c'est mes affaires, en plus. Elle s'est dit, je vais prendre quoi comme affaire pour tout dégueulasser ? Je vais prendre les affaires de mon père. Colle la cavode. Colle la cavode. Ribono Shel Olam. J'ai peur de voir l'état du mur. Donc, il y a une grande différence entre Ishmael et Ketura dans l'argumentaire. Quelle est la différence? Eh bien, Bnei Ishmael, eux, ils ont un problème avec Yitzhak. Bnei Ishmael, ils ont un problème fondamental avec Yitzhak. C'est vrai qu'ils sont les enfants d'Abraham, mais ils sont les enfants d'Abraham, des enfants de la servante. On l'a déjà expliqué des tonnes de fois, vous le savez par cœur, mais vous rappelez qu'Abraham vit dans un monde avec des lois. Dans ces lois, qui sont le code d'Amourabi, eh bien, une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, elle peut donner sa servante à son mari, et l'enfant qui va sortir de cette union-là sera l'héritier. Mais à la seule condition que la femme légitime n'a pas d'enfant. Si après, elle a un enfant, eh bien, c'est l'enfant de la femme légitime qui devient l'héritier, et l'enfant de la servante redevient enfant de servante et n'a droit à rien. Ishmael, pendant 13 ans, est l'héritier d'Abraham. Mais tout d'un coup, Yitzhak naît. Il est l'enfant de la femme légitime. Il devient donc l'héritier. Et à partir du moment où Yitzhak naît, Ishmael devient le fils de la servante. Il y aura donc à partir de ce moment-là un terrible complexe d'infériorité de la part de Ishmael par rapport à Yitzhak. À tel point que Ishmael refusera d'admettre l'existence même de Yitzhak. Alors qu'il y a énormément de dialogues entre Abraham et Lot, entre Yaakov et Esav, il n'y aura aucun dialogue entre Ishmael et Yitzhak dans la Torah. Ishmael ne peut accepter l'existence de Yitzhak parce que ce serait s'auto-déterminer comme étant esclave, fils de servante. Et donc, vous remarquerez que s'il y a eu dans l'histoire des dialogues judéo-chrétiens, il n'y a véritablement jamais eu de dialogue judéo-musulman. L'islam, volontairement, rejette l'idée que l'État d'Israël, c'est un État juif. Lama. Ce n'est pas seulement un problème territorial, c'est un problème d'identité profonde. S'ils admettent que l'État d'Israël, c'est le pays de Yitzhak, alors ils admettent qu'il y a Yitzhak. Et donc à ce moment-là, ils s'autocondamnent. Ainsi, les Ishmaélim, eux, ils ne peuvent pas reconnaître que ça nous appartient. Quand on regarde un petit peu cette histoire-là, alors finalement, qu'est-ce qui va se passer? Alexander Mogdon, il leur a dit « Arziro lahem tshuva »« Amrou lo, tnou la nuzman, shoshet yamim, natnou lahem zman, batkou velo matsou tshuva, miyad barchou venichou zotem » Encore une fois, « ma makara » C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de réponse avec les Bnei Ishmael. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas accepter. Alors, ça, c'est dans la première partie. Dans la deuxième partie de la Torah, on se rendra compte que, oui, les Bnei Ishmael vont faire Teshuva. En tout cas, pas les Bnei, mais Ishmael lui-même. Puisque à la fin de la parashat Ra'esara, on nous apprend la mort d'Abraham. Eh bien, on va nous dire que Kavru Oto, Yitzhak ve Ishmael Banav. Yitzhak ve Ishmael Banav. Et Yitzhak passe devant Ishmael, nous dit Chazal que Ishmael l'a laissé passer devant et il l'a reconnu comme étant le successeur d'Abraham. Donc ça veut dire que si Ishmael a pu faire Teshuvah à un moment donné de sa vie, les Béné Ishmael peuvent aussi faire Teshuvah à un moment donné. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, vous aurez remarqué que les accords qui ont été signés, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, s'appellent les accords d'Abraham. Toi, vous avez y'a fait. Mais ce n'est pas les accords de Yitzhak. C'est-à-dire que, vous savez, dans l'islam, il y a deux périodes. Il y a la période de ce qu'on appelle la ba'arut, l'ignorance, Jahiliya, la période où les musulmans n'avaient pas découvert l'islam, et après, il y a eu la période de l'islam où ils sont devenus monothéistes. Miprinatam, vemiprinatenu, zeoto davar. De leur point de vue comme du nôtre, c'est la même chose. On appelle ça Ishmael shelo bebeito shel Avraham ve Ishmael she bebeito shel Avraham. Il s'agit de la période où les Arabes étaient complètement polythéistes, idolâtres, ce que tu veux. C'est Ishmael à l'extérieur de la maison d'Avraham. Et après, il y a Ishmael à l'intérieur de la maison d'Avraham. Mais tout le temps, la référence est faite à Avraham et non pas à Yitzhak. Lorsqu'ils décideront de faire Teshuvah, alors ils reconnaîtront non seulement Elohe Avraham, mais également Elohe Yitzhak. Donc pour ce qui est des Ishmaélim, il ne peut pas y avoir de Teshuvah pour l'instant. Et c'est pour ça qu'ils ont dit on n'a pas de réponse à donner. Mais quand est-il des Bnei Ketura? Les Bnei Ketura, c'est complètement différent. Ils n'ont pas du tout la même réflexion, les Bnei Ketura. Les Bnei Ketura, ce sont les enfants légitimes d'Abraham. Ils ne sont pas fils de servante. Ketura, c'est la femme légitime d'Abraham, après la mort de Sarah. Alors le Chazal nous diront que c'est Agar qui a fait Tshuva. Mais l'homme chané, c'est Ketura. Ketura, c'est la femme, ce n'est pas la servante. Donc les enfants de Ketura sont bel et bien les enfants d'Abraham. Oui, mais vous n'êtes pas les aînés. Donc vous, il n'y a pas de débat que ce n'est pas à vous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le débat ne tourne pas autour de ça. Gevia ben Pessissa leur dit, Dieu, si vous regardez dans la Torah, nous enseigne que Avraham a donné et kol asher lo le Yitzhak ou le bnei apilakshim asher le Avraham natan Avraham matanot. Tout ce que Avraham avait vraiment à lui, il l'a donné à Yitzhak. Qu'est-ce qu'il avait vraiment à lui? Certainement pas ses possessions, ses biens matériels. Ce qui est véritablement Abraham, c'est ce que Dieu lui a donné, à savoir la promesse de la terre d'Israël et de la descendance. Eh bien, ça, il l'a donné à Yitzhak. Par contre, il a donné à ses autres enfants des matanotes. C'est Bnei Ketoura, on nous dit qu'Abraham les renvoie de devant lui et les emmène, enfin, les chasse vers Kedma El Eretz Kedem, à l'est de l'est. C'est quoi l'est de l'est? C'est l'extrême-orient. Ce sont les civilisations extrême-orientales qui, d'ailleurs, verront en Abraham le créateur. Je vous rappelle qu'en Inde, le dieu créateur s'appelle Brahma, Abraham. C'est-à-dire qu'ils verront en Abraham celui qui apporte la réalité de la vie. Et qu'est-ce qu'il leur a donné? Matanot. Rashi nous dit « Shemot Touma ». Des noms d'impureté. Quoi, c'est ça que tu donnes à tes enfants? Non. « Zetame Lano ». Pour les enfants de Yitzhak, c'est tamé. Mais pour eux, c'est kasher. C'est-à-dire qu'il y a dans le matana d'Abraham à ses enfants de Ketoura, la possibilité de s'attacher au divin par des shemot. Je ne sais pas qui c'est qui a son micro allumé. Linda, si tu peux éteindre ton micro. Merci beaucoup. La possibilité donc de s'attacher à Kadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de shemot. C'est ce qu'on appelle dans l'extrême-orient le mantra. C'est-à-dire l'élévation spirituelle en rappelant des mots qui portent en eux une grande signification. C'est-à-dire, le mantra le plus connu en Occident, c'est celui qu'on voit dans les films quand il y a un mec qui est déguisé en moine bouddhiste avec une toge orange. Qu'est-ce qu'il dit le mec en toge orange? Il dit « Om ». Om. Oui, ben « Om ». על פי הקבלה, בוודאי זה אחד השמות הקדושים, זה נקרא האם, והאם זה ספירת המלכות, והאם זה גילוי השם של המקור, donc c'est quelque chose de très fort. Mais d'après le judaïsme, c'est pas en répétant le mot om, em, qu'on va s'attacher à Dieu, mais c'est en comprenant ce que ça veut dire, et en faisant descendre ici-bas la réalité spirituelle dans le monde matériel. Donc si vous voulez, les Bnei Ketoura, la réponse qu'on leur donne, elle est très simple. Elle est, de toute façon, vous n'en voulez pas de cette terre, puisque vous ne voulez pas de contingence matérielle. Et effectivement, dans le monde de l'extrême-orient, on prône la séparation du monde matériel. Ok ? Mais il reste quand même une petite chose à voir. Est-ce qu'on a le droit ? Parce que là, on parle d'avoir des débats d'idées entre nous et les Bnei Ishmael, Bnei Mitzrayim, Bnei Kenan. Il y a une grande différence entre les Ishmaélim de l'époque de Gevia ben Pessissa et les Ishmaélim d'aujourd'hui. Quelle est la grande différence? À l'époque, vous aurez remarqué, des Ishmaélim de Gevia, ils disent « Eretz Israël, shelanu veshelachem ». Donc ils reconnaissent. Ben, ils reconnaissent tout simplement parce que c'est une réalité de fait. Les Juifs sont en Israël à ce moment-là. Et ils ont le Beth Amikdash. Donc ils ne peuvent pas dire « Vous n'existez pas ». Mais aujourd'hui, les Bnei Ishmael, les Juifs ils sont partis en exil pendant 2000 ans. À tel point que les Bnei Ishmael, ils ont même été là quand nous, on n'y était pas vraiment. Donc ils viennent et ils disent « Non, vous n'êtes plus légitime du tout, vous n'existez pas ». Les Juifs d'aujourd'hui, pour les musulmans, ce n'est pas les successeurs, les descendants du Ham Israël. C'est les Juifs. C'est Mashouach. Et ils vont pousser le bouchon encore plus loin parce qu'ils vont inventer une identité qui n'existe pas. Qui n'a comme seul objectif que nous ne soyons pas non plus. Nous dit le verset dans le livre de Devarim, nous dit la chose suivante. Em ki nuni belo el, ki asuni beavlehem. Dans la paracha de Asinou, on nous dit à un moment donné, em ki nuni belo el. C'est-à-dire que Am Israël, à un moment donné de l'histoire, nous dit à Kadosh Baruch Hu, nous dit que Am Israël, à un moment donné, va se désintéresser de la question du divin. Ce qu'on appelle l'athéisme moderne, le chilonisme moderne. Et donc, va qui a sonné Bavlem, ils vont être uniquement intéressés par Netflix, par Amazon Prime, c'est ça qui les intéresse. Alors très bien, puisqu'ils s'intéressent à des choses qui n'existent pas, qui n'ont pas de véritable cohérence dans l'éternité, eh bien, Ve'ani akniem beloam, begoy naval achisem. Eh bien, moi, je vais leur envoyer un lot peuple, un lot âme, une identité qui se prétend une nation, qui n'en est pas une, mais qui n'a que pour seul but que nous n'existions pas non plus. Je ne sais pas si vous connaissez une identité comme ça, qui a créé de toutes pièces son identité nationale il y a une cinquantaine d'années, qui ont tout d'un coup inventé qu'ils étaient un pays, qu'ils avaient une histoire, qu'ils avaient un peuple, alors que tout le monde sait que c'est complètement faux, que le mythe palestinien, c'est un véritable mythe fantastique du XXe siècle, mais qui n'existe pas dans la réalité historique. Mais leur seul but, c'est que nous, on ne soit pas là. Ze bene Ishmael shel hayom. Alors, est-ce que les accords d'Abraham, c'est un premier pas vers la tchouva des bene Ishmael? Ani Khoshev. Ani Khoshev Sheken. Je pense que oui. Mais je pense qu'il faudra attendre que l'Arabie Saoudite fasse la paix avec Israël. Puisque pour l'instant, les Émirats Arabes Unis, c'est bien beau, mais ce n'est pas eux qui représentent encore le hardcore de l'islam. Donc il faudra attendre, à mon avis, que l'Arabie Saoudite fasse la paix avec Israël pour commencer à vraiment parler d'une tchouva des Béné Ishmael. En tout cas, ok. Donc, les Béné Apilakshim ou Natan Gam Matanot. Chavra Botay, vous comprenez qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de dire la chose suivante. On est en train de dire que Gevia Ben Pessissa, pendant toutes ces discussions avec, on a dit, les Cananéens, les Égyptiens, les Bnei Ishmael et les Bnei Ketura, chacun vient essayer de dire que nous ne sommes pas légitimement propriétaires de la terre d'Israël et ceux qui sont, eh bien, le choix d'Akadosh Baruch Hu. Et Gevia Ben Pessissa va répondre à chacun d'entre eux. En cela, il répond aux mines avec qui on a commencé le cours en lui disant « Si tu arrives à m'enlever le fait que je sois bossu, si tu arrives à me permettre à me redresser, tu seras un grand, grand, grand médecin. » Et franchement, colle à cavode. Eh bien oui, c'est ce qui s'est passé. Les goïms nous ont aidés à nous redresser. Alors, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils nous kiffaient. Ils l'ont fait des fois violemment, ils l'ont fait des fois parce qu'ils se sentaient coupables, ils l'ont fait des fois parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais au final, c'est le mandat britannique, c'est la SDN, c'est l'ONU qui va nous permettre de nous redresser. Et à partir du moment où on est redressé, alors tel Gevia Ben Pessissa qui n'a plus sa bosse, eh bien on peut enfin reprendre la parole devant les nations du monde. Voilà le message de la deuxième grande partie de Perek Relek, après avoir expliqué ce que c'était que Triat HaMetim, après avoir expliqué la notion de Olam Haba, il faut prendre conscience que tout ça, ça passe par le dévoilement d'Israël sur sa terre pour réaliser le projet divin. Chazak ou Balzac? Bah, s'il y a des questions, c'est le moment. Non, pas de question, colle à votre toi-même.